Qui peut me dire ce qu'est un butin de guerre? C'est marqué là. Un butin de guerre, c'est ce que l'on prend à l'ennemi en temps de guerre. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes en guerre. Eh oui, la paix spirituelle n'existe pas, elle n'existera pas tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Et j'ai lu ça une fois, d'ailleurs j'avais mis, je crois, j'avais partagé sur Facebook, j'avais dit, il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, on comprendra l'importance de la prière le jour où nous comprendrons, où nous saisirons que nous ne sommes pas en temps de paix, mais en temps de guerre. Et le butin, c'est ce que l'ennemi, c'est ce que nous prenons à notre ennemi, ou lorsque c'est ce que l'ennemi nous prend en temps de guerre, lorsqu'il remporte des victoires sur nos vies. Exemple, j'écoutais hier matin, j'ai fait un peu de cuisine hier matin, et j'aime beaucoup les reportages sur la Deuxième Guerre mondiale, et notamment lorsque l'occupant allemand est arrivé à Paris, ils ont fait une razzia sur toutes les œuvres d'art. Ils ont pris les œuvres d'art qui appartenaient à la France et les ont ramenées en Allemagne. Il y a tout un trésor de guerre que les Allemands ont pris pendant cette phase-là, pendant cette période-là de l'histoire de France. Ils ont pris le butin de guerre. Et le butin de guerre, c'est le produit d'un vol, d'une attaque à main armée. Et dans 1 Samuel 30, vous le lirez parce que le chapitre est un peu long, on va peut-être pas le lire. Mais je vous racontais l'histoire. On est dans une phase de la vie de David qui est assez compliquée. David est parti en guerre. Il a été en campagne militaire avec les Philistins. Il était allié avec eux à une certaine époque. Et il a été fidèle dans toutes ses voies, dans tous ses engagements. Il a, malgré cela, il a été repoussé un peu par les Philistins. Eh oui, on l'a rejeté. Il revient à Tiglath. Enfin, je sais pas, vous lisez à ma place. C'est trop compliqué à prononcer. Et il arrive dans une ville où il avait accumulé des choses, des richesses, ses femmes, enfants, nourriture, bétail, tout ce qui appartenait à lui et aux hommes avec qui combattaient avec lui, tout a été brûlé, détruit, les murs. Et les femmes, enfants, bétail, tout ce qui appartenait à David a été pris par les Amalécites. Tout, il ne reste plus rien. Et je vous le disais, en Jean chapitre 10, il est écrit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Autrement dit, il y a dans nos vies des situations où l'ennemi est venu dans notre maison, où l'ennemi est venu dans notre cœur, où l'ennemi est venu et nous a pris son butin de guerre. C'est pas parce que tu es chrétien qu'on ne vient pas te voler. C'est pas parce que tu n'es... Et qui d'entre nous pourrait témoigner de cela? Moi, j'ai vécu des situations dans ma vie où je me suis dit, on m'a volé, on m'a pris. Il y a des moments de mon existence où on m'a pris ma paix. Il y a des moments de mon existence où on m'a pris des êtres chers, des gens avec qui j'avais des relations. On m'a volé! On vous a volé et l'ennemi vient pour dérober et pour vous voler. Vous êtes dans une guerre où l'ennemi vous prend un butin, il le ramène dans son camp. Ce sont les Amalécites ici. Le résultat de cela, c'est souvent ce qui arrive dans notre vie. Découragement, détresse, angoisse, rejet de la part de ceux qui du peuple. Là, dans ce cas-là, vous imaginez, David revient avec ses soldats, avec ses combattants, qui étaient des gars qui étaient pas très fréquentables, il faut le dire. Hein. Il revient, tout est brûlé. Vous imaginez dans le cœur de David, il est inquiet pour sa femme, pour ses femmes, il en avait deux. C'était pas forcément un amoureux, hein. Qu'il y en avait deux. Je dis ça à ces messieurs. Il vaut mieux en avoir qu'une. Hein, c'est plus biblique. Il a On lui a pris des choses. Il est angoissé. Il est inquiet pour sa famille. Il est inquiet pour ses enfants. Il est inquiet pour ce qu'il possède. Mais que vais-je devenir? Et en plus, les gens qui combattent avec lui cherchent, il est dit, ils cherchaient à le lapider. Ils étaient amers. Ils ont rejeté sur David la responsabilité de ce qui leur arrivait. C'est souvent le cas, hein. Il vous arrive quelque chose dans votre vie, c'est jamais vous, hein. C'est toujours la faute de l'autre. Non? C'est souvent comme ça que ça se passe. Non, vous n'avez pas remarqué ça? Il m'arrive quelque chose, je vais trouver un bouc émissaire. Parce qu'il y a au fond de moi une colère, il y a au fond de moi une forme d'amertume, une forme d'incompréhension peut-être. Et je dois trouver un coupable, un bouc émissaire. Je dois trouver quelqu'un qui va porter la responsabilité. Je ne sais pas si c'est de la faute de David. Rien ne nous dit dans le texte que David était responsable. Soit dit en passant, il est parti faire la guerre, il a délaissé peut-être sa ville dans laquelle il avait emmagasiné les choses, et je ne sais pas, rien ne nous dit qu'il l'avait mal protégé. Peut-être a-t-il manqué de sagesse, peut-être a-t-il manqué de discernement. Et souvent d'ailleurs, ce qui nous arrive est le fruit de négligence dans notre propre vie. Souvent, ce qui nous arrive quand on vient nous voler, quand l'ennemi vient nous prendre quelque chose, c'est souvent le cas. C'est parce que nous avons manqué de vigilance dans la prière. Parce que nous avons manqué de choses. Mais ce qui est extraordinaire, et vous allez voir, c'est que la grâce de Dieu se manifeste même lorsque je défaille peut-être dans certains domaines de ma vie. Qu'est-ce que l'ennemi vous a volé? Votre paix, votre volonté de grandir en Christ, votre santé, votre vie de prière. Il y a des moments où l'ennemi m'a tellement dépouillé que je n'arrivais même plus à ouvrir la bouche pour prier. Notre adoration, notre femme, notre mari, nos enfants, nos relations, notre argent, des conversions, des vies transformées par notre témoignage de Jésus-Christ. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce que Satan vous a pris? Qu'est-ce que la vie vous a volé? Qu'est-ce que vous avez perdu ces derniers temps? Votre joie, votre volonté d'y aller, votre motivation, votre courage de venir au culte, peut-être, votre courage de vous engager dans l'œuvre. Peut-être y a-t-il des choses qui vous ont été prises et vous avez parfois même été témoin du vol, du larcin. Vous étiez devant votre porte et vous avez laissé faire. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui était volé, le mimi d'Alix. Son père donnerait sa vie pour le récupérer. J'exagère quand je dis ça, mais il prendrait de son temps, il prendrait de son énergie pour aller rechercher Mimi, parce qu'il aime sa fille. Et Dieu nous aime. Aussi a-t-il envoyé son Fils afin de nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance, afin que nous récupérions tout ce qui nous a été pris à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance, à cause de notre défaillance. Dieu veut nous rétablir les choses. Il veut nous rendre ce que nous avons perdu. Et il est dit de David ici qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'on nous a volé, lorsqu'on a perdu quelque chose, c'est ce que nous nous lamentons sur nous-mêmes. C'est que nous cherchons des responsabilités sur les autres. Qu'a fait David? Il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Il est allé chercher auprès de Dieu la force, et la puissance et l'autorité pour récupérer ce qu'il avait perdu. Il ne s'est pas laissé entraîner par ses émotions négatives. Et je vous en parle en connaissance de cause. Dans les moments difficiles, dans les moments où nous avons perdu, nous pleurons, nous sommes angoissés, nous nous posons des questions, notre foi défaille et nous laissons les émotions envahir notre cœur. Et nous finissons par chercher des moyens humains à régler ces problèmes-là. Or là, il est écrit que David n'a pas cherché de moyens humains. Qu'a-t-il fait ? Il s'est appuyé sur Dieu, sur ce que Dieu dit dans sa parole. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, souvenez-vous du miroir au début de ce culte. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et je continue à avancer. Je suis la brebis du Seigneur. Je garde cette parole avec moi et j'avance avec cette parole. Et je m'appuie sur Dieu l'Éternel. C'est pas juste un moment d'émotion à la fin du culte ou pendant le culte ou pendant notre temps de prière. J'avance avec ce que Dieu est et ce que Dieu m'a dit. Là, c'est pas simplement ce que Dieu fait, parce que Jésus dit « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. » Et là, j'aime beaucoup ce que fait David. Je veux vous interpeller peut-être à quelque chose d'important. Parce que souvent, nous nous sommes engagés dans des voies où nous n'avons pas consulté l'Éternel. La première des choses que fait David, non seulement il s'appuie sur ce que Dieu a dit, mais il est dit qu'il appela le sacrificateur qui pour lui apportait l'éphod et il consulta l'Éternel. Et souvent, nous n'avons pas consulté Dieu avant de nous engager sur des choses importantes. Je ne vous parle pas « dois-je manger du poulet ou du rôti de bœuf ce midi ?» Ce n'est pas ça. Ou des spaghettis végétariennes pour les végétaliens et les végétariens. Non. Souvent, nous avons récupéré les fruits et on nous a volé et nous avons été vaincus parce que nous n'avons pas demandé au Seigneur avant. Je le répète, souvent on nous a volé, souvent on a perdu des choses, souvent on est allé dans des endroits sans demander au Seigneur avant. Et après nous récoltons des choses négatives et vous savez qui. Oh, je ne le dis pas d'une manière consciente, hein. Mais qui nous disons qui est coupable ? C'est Dieu. Parce que les situations dans lesquelles nous sommes nous ont refroidis et nous disons Dieu ne prend pas soin de moi. Alors que Dieu, depuis le début, disait n'y va pas. Bien là, merci Seigneur, parce que là, il lui dit vas-y, David. Récupère ce que tu as. Il est comme le papa qui veut rendre son jouet à son fils, qui veut rendre ce qui appartient au fils. Il veut lui ramener dans sa maison. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une guerre. Vous êtes convaincus, j'espère, et que le véritable guerrier se reprend lorsqu'il est abattu. Alors je sais, vous allez me dire, après avoir prié pour lui, etc. Ah, il nous en envoie là. Le guerrier se reprend quand il est abattu. Le guerrier résiste lorsque le découragement arrive. Le guerrier entre et va et s'appuie sur Dieu parce qu'il est un guerrier. Vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Spirituellement en guerre. Notre pays peut être dans la paix pour l'instant, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Et nous sommes appelés à récupérer maintenant, à prendre en possession les choses que Dieu nous donne. Il se relève, il sort de sa défaite. Alors peut-être que tu as fait des choix sans avoir consulté l'Éternel. Oui. Peut-être que tu es triste, peut-être que tu es angoissé, peut-être que tu as des choses difficiles aujourd'hui, peut-être que tu as des des émotions négatives. Mais Dieu te dit ce matin, sors de ta défaite. Sors de tes émotions négatives. Sors. Et entre dans ta destinée. Parce que ta destinée, c'est d'être une brebis du Seigneur. Ta destinée, c'est d'être un fils qui possédera le royaume de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Là, dans l'histoire de David et ce qu'il nous dit ce matin. Et puis, il recommence à prier. Tu t'es trompé, tu n'as pas consulté, tu as fait des mauvais choix, repens-toi et reprends ta vie de prière. Consulte l'Éternel. Parce que Dieu ne te rejette pas, parce que tu t'es trompé, au contraire, il veut te relever et te faire entrer dans la possession des choses. Souvent, nous croyons, parce que nous sommes trompés, nous sommes fichus aux yeux de Dieu. C'est faux! C'est une pensée diabolique! Parce qu'il est écrit dans la Bible, si le juste chute sept fois, il le relèvera. Dieu relève ses enfants. Il poursuit son ennemi en brandissant ses armes jusqu'à ce qu'il ait tout récupéré. Et moi, je veux qu'on récupère tout ce que nous possédons. Parce que nous possédons ces choses, mais elles ne sont pas dans notre maison. Nous voyons bien, nous lisons des passages de la Bible, nous voyons des choses, nous disons, c'est vrai, elles m'appartiennent, c'est ma foi qui me dit, mais ces choses m'appartiennent, mais en réalité dans notre vie, nous ne possédons pas tout. Et nous possédons ces choses, nous ne les avons pas. Et ce que je veux vous amener à comprendre ce matin, c'est que Dieu nous demande d'aller chercher ces choses. De la même manière que j'ai dit à mon fils, va récupérer ton Playmobil. Dieu veut que nous le fassions. Il ne le fera pas à notre place. Regardez Éphésiens, chapitre 6, verset 10 et la suite. Regardez, je veux simplement que vous arrêtiez. On ne va pas lire tout le passage. Mais regardez les verbes qui sont écrits ici, que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe et qu'il nous adresse. Fortifiez-vous. Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Qui se fortifie? Soi-même. Fortifiez-vous. Revêtez-vous. Est-ce que c'est Dieu qui te revêt ou c'est toi qui te revêt? Regardez. Prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme. Revêtez la cuirasse. Prenez par-dessus. Faites en tout temps. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Le guerrier, c'est celui qui prend et qui agit et qui fait les choses. Tous ces verbes que je viens de vous lire sont des verbes d'action, de mouvement vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez que David aurait pu rester dans sa ville détruite? J'ai réussi à le dire sans dire le nom de la ville, j'ai bien réussi. David aurait pu rester là, il n'aurait jamais possédé, Dieu aurait continué à l'aimer. Peut-être aurait-il pu rebâtir, peut-être même qu'il aurait pu avoir de nouveau du bétail, peut-être qu'il aurait pu reconstruire, mais Dieu lui dit cette chose. Je voulais simplement vous le dire, il lui dit, poursuis. Atteint et délivre. Trois verbes. Poursuit, atteint et délivre. Dieu aurait pu lui dire, c'est pas grave David, je vais reconstruire autre chose avec toi. Non, il lui dit, va récupérer ton butin de guerre. Il t'appartient David. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Et je veux que tu vives ce verset. Je veux que tu vives cette parole. Je ne veux pas parce que tu vas reconstruire. Mais c'est pas le fait de reconstruire qui t'ira mieux. C'est lorsque tu reprendras pour deux choses. Ça va te réconcilier avec l'événement négatif. Mais en plus, ton ennemi, il saura que tu ne te laisseras plus voler par la suite. Il ne reviendra plus. Je peux vous dire que le petit gamin qui a volé le Playmobil, j'ai souvent posé la question. Il paraît que les premiers temps, il se tenait à distance de mon fils. Et il a vu le père arriver. il a vu le Père agir, proclamer et dire « Rends le Playmobil de mon fils !» Et le gars, il était comme ça. Les démons tremblent lorsque Dieu proclame les choses. Lorsqu'un peuple proclame les choses, les démons tremblent. Tu dois l'entendre, ça. Or, la Bible nous dit que nous avons tout en Christ et pourtant nous ne possédons pas tout, je vous l'ai dit, parce que souvent nous avons l'attitude, nous n'avons pas l'attitude et la position de David. Il y a une position que nous devons tenir. Il y a une position dans laquelle nous devons entrer. Ce n'est pas une position, c'est un mouvement. Le mouvement de David, c'est d'y aller et de récupérer. J'espère que je vous ai convaincu, enfin que le Saint-Esprit surtout, convaincra. Toute chose vous conduira dans la vérité. Mais en tout cas, je voudrais que vous entendiez cela. Ensuite, si nous ne possédons pas, il est encore temps pour nous de nous mettre en action. Ça, c'est la première chose. La première chose, on s'entend bien, vous et moi, nous devons reconquérir ce qui nous a été volé. Et normalement, si vous étiez d'accord, vous diriez « Amen ». Hein, pardon ? Avant, c'est mieux comme ça. Maintenant, David, il avait 600 hommes de guerre. C'est pas mal, hein, une belle petite compagnie, hein. Et les gars, apparemment, ils avaient des vrais vikings, quoi. Vous voyez, il y en avait certains, là, c'était des sacrés loustiques. Il dit, nous allons y aller. Et c'est lui qui reçoit la parole de Dieu. Mais les autres, ils disent, allons-y. Donc 600 qui marchent. 200, ils vont entraînant les pieds. Et dans l'église, il y a toujours des gens qui traînent les pieds. Vous avez remarqué ça ? Non, vous n'êtes pas de ceux-là peut-être. Mais quand on dit « faites ceci ou faites cela », il y en a toujours qui traînent. Et ces gars, ils s'arrêtent. David leur dit « plutôt que de nous retarder, restez là ». Et puis 200. Et on continue à marcher. 200 autres. 200 autres là, eux par contre, qui ont persévéré et qui ont marché et qui ont résisté. Et puis qu'à un moment donné, ils disent, on n'en peut plus, David. On revient de campagne là. On n'en peut plus. Il faut qu'on s'assoie. Et là, David continue. Avec 200 hommes, il va. Les Amalécites sont en train de boire un coup, une petite bière. Une lef. Et ils s'amusent, ils se réjouissent parce qu'ils sont en train de se dire « On l'a bien eu, David. On lui a piqué tout ce qu'il possédait. On a ses femmes, son bétail, etc. Lui, qui soi-disant est protégé par son Dieu, on lui a tout volé. » Et là, David fond sur ses ennemis avec les 200. Et il les extermine et il reprend tout ce qu'on lui a pris. Il ramène tout à Tsilag. Il prend tout. Je voudrais parler peut-être de l'abandon et de gens qui ne résistent pas. Je me suis posé la question. Je me dis quand même que David, il avait un bon cœur et un cœur de berger. Très bon cœur parce que, vous savez, les 200 qui ont traîné les pieds ont récupéré le même butin que les 200 qui sont allés au bout. Les 200 qui étaient fatigués, peut-être un peu moins responsables dans l'affaire, ils ont récupéré le butin. Néanmoins, ça a provoqué des dissensions. Il y a un sentiment d'injustice de la part de ceux qui se sont tenus jusqu'au bout, qui y sont allés jusqu'au bout. Et ceux-là disent, « c'est pas normal, David. Quand même, tu leur donnes la même récompense à eux qu'à nous. » J'ai trouvé, enfin moi personnellement, j'ai trouvé ça injuste. Je suis désolé de vous le dire. Mais j'ai trouvé quand même que les gars qui étaient deux, qui sont allés jusqu'au bout, auraient dû recevoir plus. Et David, il est juste, il leur donne la même chose. Ça a provoqué quand même quelques dissensions, ça. Néanmoins, je me suis mis à réfléchir à une situation un peu plus compliquée pour David. Il reçoit la parole de Dieu. Il y en a il n'y en a pas 200, mais 400 qui abandonnent, qui traînent les pieds. Et puis, il continue, il n'y en a pas 400, mais 199 qui, par la suite, sont fatigués. Et David se retrouve seul, ou peut-être avec un petit groupe, face aux Amalécites. Je vous pose la question, même si Dieu était avec lui, même si Dieu voulait qu'il récupère les choses, est-ce que vous pensez qu'ils auraient le même courage, la même force, la même persévérance pour récupérer? Est-ce qu'ils auraient été capables, entendez bien ceci, de récupérer tout le volume à 1, 10 ou à 200? Je vous pose la question. Autrement dit, ma défection, est-ce qu'elle ne peut pas provoquer du découragement chez l'autre? Est-ce qu'elle ne peut pas provoquer une certaine incrédulité chez l'autre? Est-ce qu'elle n'ira pas jusqu'à freiner peut-être le résultat de la récupération du butin? Je n'en dis pas plus, la Bible ne le dit pas dans ce cas-là. Mais quand même, ça m'interpelle. Et c'est là où je vous pose la question à vous. Et à moi, hein, je me mets dans le même bateau. Qu'ai-je et quelle attitude ai-je dans ce que Dieu a prévu pour Betsabée? Est-ce que je suis de ceux qui traînent les pieds? Est-ce que je suis de ceux qui marchent mais qui sont aujourd'hui dans un état de fatigue et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'arrêter? Ou suis-je de ceux qui iront jusqu'au bout dans ce que Dieu a dit à David? Et ça, je me dis que c'est vraiment important que vous puissiez réfléchir, pas maintenant là, mais cette semaine. Prenez le temps et dites, où en suis-je par rapport à ça, Seigneur? Est-ce que ma défection, est-ce que mon abandon ne provoque pas l'abandon des autres? Et ça, je l'avais vu à un moment donné au niveau de la louange, je te souviens, Aldora, il y avait une crise à un moment donné. On va être clair entre nous, on est en famille, on peut laver notre linge sale, même si c'est filmé. À un moment donné, pourquoi dans le groupe de louange y a-t-il eu des difficultés? Et un jour d'ailleurs, c'était en juin de l'année dernière, je crois, je me suis mis à réagir en arrivant. On s'était retrouvé dans une situation où, si mes souvenirs sont bons, parce que ce genre de truc, je ne le retiens pas très bien, hein, j'avoue, mais on se retrouvait avec un culte, ou deux, où il n'y avait personne à la louange. Et j'étais moi venu ranger, je crois, et j'entends les conversations, et vous savez, à un moment donné, j'ai pris la parole, et j'ai dit, hé, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Restez chez vous, et je vais venir avec une guitare. Vous savez, le gars qui joue de l'homme orchestre, et je vais me mettre là, et je vais diriger la louange. Mais j'ai dit ça avec humour, mais j'étais très en colère sur le plan intérieur, parce que leur défection provoquait une tristesse dans mon cœur et provoquait un découragement. Ta défection provoque du découragement dans la vie des autres. Et croyez-moi, ce n'est pas écrit dans le livre ici de Samuel, mais je me mets à la place de David. 600 gars avec qui il a remporté des victoires incroyables, 600 gars qui ont vu la fidélité de Dieu dans tout ce qu'ils ont fait, et il n'en reste que 200. Imaginez-vous le cœur de David, le cœur du berger. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que David, après avoir tout récupéré, il leur dit, distribuez à chacun en part égale. Quel cœur! J'aimerais bien avoir un cœur comme ça. Quel beau cœur! C'est le cœur de Dieu qui parle ici. Et puis, je voudrais aussi parler à ceux qui y résistent aujourd'hui. Devons-nous nous arrêter parce que les autres s'arrêtent? Moi, je m'en souviens. Quand je suis arrivé là, en 2008, tu te souviens, Jacqueline? Plusieurs disaient, Marc Cambarole, d'abord on disait, il y a une église à Marc? Avec un rire moqueur des fois, un air moqueur. Et des gars qui disaient, Il y a une église à Marcq-en-Barœul. Je me souviens que même dans l'idée, parce qu'il n'y avait que des femmes qui portaient l'œuvre à l'époque, dans la prière, et un jeune homme, prêt à arrêter, prêt à être découragé, parce que ceux qui devaient prendre leur place ne la prenaient pas. Et j'ai été émerveillé, parce que j'ai vu que Dieu a répondu à la fidélité. J'ai vu que Dieu a répondu à la persévérance. Mais j'ai vu aussi la souffrance de personnes qui tenaient ferme et qui voyaient les gens partir un par un. Vous vous souvenez, quand on est arrivé, il y avait 22 personnes qui avaient voté pour que je devienne pasteur. Au bout de quelques mois, on était 6 au culte, dont Yvonne qui ronflait pendant mes prédications. On se souviendrait toutes. Et ta fille, qui aussi, c'était en stéréo. Voilà. Est-ce que je dois m'arrêter parce que les autres s'arrêtent? Dieu nous dit, ne vous arrêtez pas. Je me souviens, tu te souviens de la vision? La vision, c'était que, avant même que je sache que je viendrai, Dieu m'avait montré cette voie de chemin de fer, et vous étiez à l'arrêt, et vous vous posiez des questions, dois-je continuer ou dois-je m'arrêter? Et là, je voyais, moi, des rails dans les wagons, et je leur disais, regardez, il y a encore tout le matériel qu'il faut pour continuer le chemin et aller au bout des choses. Et sur cette parole, vous savez ce qu'on a fait? On est venu tous les jeudis soirs. Tu te souviens, Jacqueline, vous souvenez, mesdames, mes sœurs, on est venu tous les jeudis soirs et on a prié, on a dit sur cette parole, tu es le bon berger, le voleur vient pour dérober, voler et détruire, mais tu es venu Seigneur afin que tes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Et nous avons marché pendant quelques mois comme ça, par la foi, tous les jeudis, en pleurant, en criant à Dieu, oh Dieu, donne un pasteur à cette communauté. Donne une famille à cette communauté. Et tu as répondu. Ça, on ne reconnaît pas le guerrier à ses fortes paroles, à sa grande G. On reconnaît le guerrier à celui qui prend la parole et qu'il va au bout des choses. Regardez bien maintenant ceci. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. De nouveau, il fut heureux. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, aucune, pas le moindre centime d'euro. Tout a été récupéré, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Betsalel, tu ramèneras tout. Tous autant que nous sommes appelés à tout ramener, tout reprendre. C'est notre position en Christ. C'est ce que nous avons reçu de Dieu. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Nous allons tout reprendre. Pas pour faire comme les Amalécites, mais parce que c'est notre possession. C'est notre possession. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête. Il disait, c'est ici le butin de David. Oh, quelle grande victoire. Vous voulez que je vous dise un truc? C'est sans doute l'une des plus belles victoires de David. L'une des plus belles. Parce qu'il avait tout perdu. Tout. Il a tout récupéré. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Où sont les 200 de Betsalel? Bon, on n'y est pas encore. Quand vous comprenez quand je dis 200. Vous êtes là ce matin, vous faites partie des 200. Quels sont ceux ou celles qui vont se lever ce matin et aller au bout sans s'arrêter et s'entraîner les pieds? Dieu nous dit les mêmes paroles que David a reçues. Betsalel poursuit, rattrape et délivre et pas reconquérir ton butin parce qu'il t'appartient. Dominique, poursuit, rattrape et délivre. et pas reconquérir ton butin. Pauline, poursuis, rattrape, délivre et pas reconquérir ton butin. Jean-François, le caméraman, poursuis, rattrape et délivre et pas reconquérir ton butin. Tous autant que nous sommes, vas-y, c'est une parole que Dieu donne. C'est la parole de Dieu. J'ai consulté l'Éternel et je lui dis, Seigneur, je suis triste. Parce que l'Église ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être. Seigneur, je suis triste parce que je vois des fois des vies être construites et tout de suite on vient voler. Je vois des amis que je ne vois pas au culte tous les dimanches, des gens avec qui j'ai pris du temps. Je vois des jeunes gens, des jeunes convertis être remplis de doutes à tel point qu'aujourd'hui ils sont prêts à quitter l'Église. Et je dis, Seigneur, je ne peux plus fonctionner comme ça. J'en ai marre qu'on me vole, Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur a dit, poursuis, rattrape, délivre. Va rechercher ce qui t'appartient. C'est ta possession. Reprends les choses. Et vas-y maintenant. Le butin, ce que l'on prend à l'ennemi en temps de guerre. Et moi, j'ai l'intention ce matin de reprendre ce qui m'appartient.